L'adolescence, c'est l'âge de la construction identitaire, un moment de passage entre l'enfance et la vie d'adulte où les garçons et les filles cherchent à prendre leur distance avec leurs parents en faisant leurs propres expériences. Et au cœur de cette période particulière de la vie, le goût du risque représente une façon de sortir du cadre familial en explorant l'inattendu et l'imprévisible. Et avec mes invités, le psychiatre Xavier Pomereau et le sociologue David Le Breton, nous allons nous intéresser donc aux différentes formes de prise de risque pour en comprendre les motivations et puis voir également comment les accompagner. J'attendais maintenant vos messages et vos questions, vos témoignages sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Manger moins pour vivre heureux et en bonne santé, eh bien c'est la conclusion d'une étude aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, une étude très originale qui montre cette fois sur l'homme des effets bénéfiques d'une restriction calorique prolongée. On en parle avec un spécialiste du jeûne dans un instant et vos questions sur Twitter.
Stéphanie Texier réalise notre émission qui a été préparée aujourd'hui par Camille Jusot avec Dylan Beiner.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le goût du risque chez les adolescents, dossier dans quelques minutes de l'émission avec donc mes invités Xavier Pomereau et David Le Breton. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Xavier Pomereau, est-ce que vous avez le sentiment que les conduites à risque se multiplient aujourd'hui dans le monde adolescent?
Oui, j'ai le sentiment que, en tout cas pour 15% d'adolescents, c'est-à-dire quand même un adolescent sur 7, il y a des prises de risque qui ne sont plus seulement de simples écarts de conduite, mais le grand écart est pour certains d'entre eux malheureusement la déchirure.
David Le Breton, qu'est-ce qui fait justement que ces ados semblent aujourd'hui développer des comportements plus à risque que les dernières décennies?
Oui, il y a évidemment beaucoup de données. Très rapidement, ce sont les transformations de la famille aujourd'hui, le fait que le couple devienne extrêmement précaire, c'est l'individualisation du sens, le fait que nous soyons devenus des individus et qu'il incombe à chacun de nous de donner un sens, une signification à son existence. C'est la difficulté de se projeter dans le temps, avec les difficultés de transmission que connaissent non seulement les parents d'ailleurs, mais aussi l'école.
Voilà, on va en parler avec vous abondamment donc dans quelques minutes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Faut-il manger un peu moins que nécessaire pour être en bonne santé? Une étude originale en tout cas le préconise et c'est à la une de la science.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo.
Alors, cette étude, 220 personnes non obèses qui ont accepté de manger moins pendant 2 ans pour mesurer les effets de la restriction calorique sur l'homme. Étude publiée hier dans le journal de l'Académie de médecine américaine. Et les résultats sont surprenants parce que les personnes déclarent une amélioration notable de leur bien-être et de leur santé, la qualité du sommeil, l'humeur, l'attention et même les performances sexuelles. Yvon Lemao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes physiologiste et directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Alors, en tant que spécialiste du jeûne, qu'avez-vous pensé de ces travaux d'abord?
Eh bien, ces travaux m'intéressent. Je travaille essentiellement sur l'animal, sur les mécanismes fondamentaux d'adaptation au jeûne. Et à partir du moment où ces mécanismes sont identiques et ont la même efficacité dans le monde animal et chez l'homme, cela m'intéresse bien sûr, même si je ne suis pas habilité, n'étant pas médecin, à donner des conseils sur ce qu'il faut faire pour restreindre sa consommation alimentaire.
Quand ces chercheurs parlent de restriction calorique, est-ce que ça veut dire qu'ils ont hiberné pendant 2 ans? Non.
Non, pas du tout. Vous voyez, ce qui manque dans cette étude, c'est des informations sur ce qui se passait avant. Oui. Parce qu'il est bien évident que dans une société où l'on mange trop et mal, restreindre l'alimentation va augmenter le bien-être et la survie. Mais il manque cette information tout de même.
Mais manger moins, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, manger moins, ça veut dire, lorsqu'on a tendance à trop consommer par rapport à sa dépense énergétique, ce qui prend en compte évidemment l'exercice physique. Une personne qui n'a pas d'exercice physique, et c'est l'un des problèmes de notre société, et qui consomme trop d'aliments, eh bien, va développer toutes sortes de pathologies qui sont bien connues, l'obésité, tous les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, et ce qu'on appelle donc les maladies modernes. Et il ne fait pas de doute que restreindre sa consommation alimentaire va prémunir contre ces pathologies.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un peu faim régulièrement, c'est ça?
Ça veut dire ne pas trop manger, ça ne veut pas dire être en sous-alimentation chronique. Vous voyez, c'est un peu la difficulté ici.
Donc les personnes, en l'occurrence, ont mangé 25% de calories en moins que ce qu'elles mangeaient habituellement. C'est comme ça que ça s'est traduit concrètement sur
mais
ces 220 personnes.
On ne sait pas ce qu'elles mangeaient exactement auparavant. Ouais. J'imagine que les chercheurs ont ajusté par rapport à la taille de ces personnes, mais on n'a pas d'informations, notamment sur leurs dépenses énergétiques. Et ça, c'est vraiment un élément majeur. Et on sait que l'un des problèmes majeurs de notre société, c'est une diminution considérable de l'activité locomotrice, de l'exercice.
Est-ce que les mécanismes en jeu dans une restriction longue et un jeûne sont les mêmes physiologiquement ?
Alors, on manque d'informations scientifiques dans ce domaine. Mais c'est une question très intéressante que vous posez. Plutôt que d'être en sous-alimentation, parce qu'il y a toujours ce risque constant, et ça ne doit pas être très drôle, n'est-il pas possible de manger ad libitum, comme l'ont fait les patients qui étaient les contrôles dans cette étude, et de temps en temps jeûner pendant quelques semaines ou selon les réserves corporelles.
Yvan Lemao, les bienfaits de la restriction calorique ont été, donc vous le disiez, beaucoup étudiés chez l'animal. Donc on a vraiment affaire au même mécanisme physiologique chez l'homme ?
Alors, en ce qui concerne l'adaptation au jeûne, effectivement, et ces mécanismes tout à fait étonnants ont la même efficacité. Le premier mécanisme qui est en jeu lorsqu'on se prive d'aliments, c'est le foie, qui est une réserve de glucose à travers le glycogène, mais c'est rapidement épuisé. Ensuite, on a une mobilisation des protéines pour fabriquer du glucose, et en 3 ou 4 jours, une mobilisation des lipides. Ça prend 3 ou 4 jours, c'est la période un peu difficile, et ensuite, les lipides fournissent l'essentiel de la dépense énergie, et fournissent même, à travers ce qu'on appelle les corps cétoniques, un carburant pour le cerveau en remplacement du glucose.
Mais là, on parle d'amélioration de la qualité du sommeil, de l'humeur, de l'attention. Est-ce qu'on trouve des marqueurs physiologiques de ces améliorations-là aussi ?
Alors, par exemple, il est bien connu que le jeûne chez la personne ayant des réserves tout à fait normales va diminuer la libido, par exemple, mais de manière très intéressante, c'est l'inverse pour des patients obèses et diabétiques. Ils vont trouver une amélioration. Donc voilà, je pense, et c'est pour ça qu'il est important de jeûner sous contrôle médical, il faut adapter soit la restriction calorique à très long terme, ou bien des périodes de jeûne qui peuvent être annuelles, ça, où d'autres individus vont restreindre une fois par semaine. Tout cela doit être adapté en fonction de la personne et de son mode de vie.
Est-ce que le jeûne peut avoir des applications thérapeutiques concrètes ?
Alors, il y a une application qui émerge actuellement, part de travaux qui ont été réalisés chez la souris, et des études sont chez l'homme actuellement, et ces observations sont tout à fait étonnantes. Elles montrent que la souris sous chimiothérapie, donc ce sont des souris qui portent des tumeurs, résistent beaucoup mieux à la chimiothérapie lorsqu'elles sont à jeun, c'est-à-dire qu'elles ne montrent pas les mêmes signes délétères d'abattement, de manque de réactivité que l'on observe chez l'homme, cette terrible fatigue qui accompagne toute cure de chimiothérapie.
C'est l'américain Walter Longo.
De nombreuses études visent à voir ce qu'il en est chez l'homme.
C'est l'américain Walter Longo, en l'occurrence, qui a fait
ses
études, mais sur la souris.
Qui s'est installé aux États-Unis.
Oui. Ouais. Sur la souris, donc, est-ce qu'on peut imaginer faire ce même type d'expérience chez l'homme ou pas ?
Des études sont en cours, aussi bien en Californie que très récemment, je sais que l'étude est terminée, mais je n'en connais pas tous les résultats, à Berlin, à l'hôpital de la Charité, où il y a vraiment une équipe qui s'intéresse aux jeunes.
Merci beaucoup Yvan Lemao. Donc on va essayer de moins reprendre à manger à table. Alors si ça nous fait du bien, 25% de restriction calorique. Je rappelle que vous êtes physiologiste et directeur de recherche émérite au CNRS. Merci beaucoup pour votre éclairage sur cette étude. Merci Axel.
Merci à vous, au revoir.
À demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, deux variantes génétiques augmenteraient la probabilité pour une femme d'avoir des jumeaux dizygotes, plus communément appelés faux jumeaux. Selon une étude publiée dans la revue American Journal of Human Genetics, ces variations génétiques touchent deux gènes impliqués dans la physiologie physiologie d'une hormone qui intervient principalement dans la maturation des follicules ovariens chez la femme. Posséder ces deux variantes contribuerait donc à augmenter la probabilité de grossesse gémellaire de 29%. Une découverte qui permet d'imaginer de nouveaux traitements contre la stérilité chez les femmes. Lundi, le ciel nous offrira un spectacle exceptionnel puisque la Terre, Mercure et le Soleil vont s'aligner pendant plus de 7 heures. C'est ce qu'on appelle un transit planétaire, un événement extrêmement rare dans le cas de Mercure et à l'échelle d'une vie humaine. La petite planète étant très près du Soleil, bien ce phénomène sera invisible à l'œil nu. Mais rassurez-vous, les lieux d'observation seront équipés et l'Observatoire de Paris, par exemple, va retransmettre en direct ce transit sur Dailymotion pour tout le monde. Notez également notre tête au carré spéciale sur le sujet lundi, donc à 14h. Et puis enfin, comment se fait-il que la chouette effraie n'émette presque aucun son lorsqu'elle vole? BBC Earth répond à cette question en comparant le vol de trois oiseaux de taille similaire dans une vidéo extraite d'un documentaire. Contrairement à celle du pigeon biset et du faucon pèlerin, les plumes de la chouette effraie absorbent les frottements de l'air et réduisent les turbulences. Son vol silencieux permet donc aux rapaces de surprendre ses proies avant qu'elles ne s'enfuient ou se cachent, même quand elles sont dotées d'une vision nocturne. Cette vidéo est à retrouver sur notre page Facebook. Allez, le goût du risque chez les adolescents, c'est le thème de notre dossier dans un instant, après Bibi Bourelli et Sally.
Sur France Inter.
Les comportements à risque chez les ados, dossier donc de l'émission avec mes invités Xavier Pomereau et David Le Breton. Xavier Pomereau, vous êtes psychiatre, chef du centre Abadi, c'est au pôle aquitain de l'adolescent au sein du CHU de Bordeaux et vous êtes spécialisé dans la prise en charge des jeunes en difficulté. Et donc ce livre que vous publiez, Le goût du risque à l'adolescence, le comprendre et l'accompagner, c'est aux éditions Albin Michel. Et puis David Le Breton, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire Culture et Société en Europe. Alors vous avez publié beaucoup d'ouvrages déjà sur la question adolescente. Le dernier s'appelle « Penser l'adolescence » avec Denis Geffray et Jocelyne Lachance. Et il est sorti aux presses universitaires de France. Vous aviez également sorti « Conduite à risque » toujours au PUF. Dialogue avec les auditeurs de La Tête au Carré qui nous rejoignent donc sur le site de l'émission et sur le mot-clé « L'attaque ». et en illustration de notre sujet, un extrait du film LOL.
Tu es ma fille et tu es sous ma responsabilité. Et t'as pas encore 18 ans, alors il y a deux ou trois choses que j'ai le droit de pas accepter, tu vois?
Mais oui, mais genre quoi?
Genre quoi? Que tu foutes pas ta vie en l'air.
Mais je la fous trop en l'air, ma vie.
Ah ouais? Tu fumes des pétards,
tu bois, tu couches avec n'importe qui. Et t'appelles ça pas foutre sa vie en l'air, toi?
Mais c'est toi qui dis n'importe quoi, mais d'où tu sors ça?
Je sais tout, Lola.
Comment ça, tu sais tout?
Mais arrête de mentir, hein. Arrête de me prendre pour une conne, on dirait ton père, là.
T'es vraiment nul de dire ça.
J'ai lu ton journal, ok?
Pardon?
Ouais, j'ai pas fait exprès, il est tombé.
Mais arrête de me dire que t'as pas fait exprès, il était caché, mon journal!
Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair maintenant.
Mais t'as pas besoin de savoir ma vie, c'est ma vie privée, ça! Je peux pas le comprendre deux secondes! C'est ma vie privée, t'as pas à te mêler de ça! J'en ai marre, putain, mais t'as pas le droit de faire ça! T'es vraiment qu'une salope!
Tu pourras la mettre dans ton journal, celle-là, idiote!
Xavier Pomereau, pourquoi la traversée de l'adolescence ressemble souvent à une période de vent contraire et de mauvaise tempête, comme vous l'écrivez justement en dédicace de votre livre?
C'est un peu compliqué aujourd'hui, à mon sens, parce que on est dans une société très paradoxale, où d'un côté on veut coucouner, envelopper, protéger, épargner nos enfants, et on le comprend bien, mais on le fait, pour certains d'entre nous, beaucoup trop, et du coup, enfermés dans un espèce de cocon hyper protecteur, nos ados n'ont qu'une idée, c'est essayer d'en sortir.
Ouais.
Alors ils vont en sortir pour certains, heureusement, en ouvrant la fenêtre, si je puis dire, de l'internet ou la vraie fenêtre, sans se mettre trop en danger. Et puis pour d'autres, par contre, là, ça peut prendre des proportions plus importantes. Dès lors que, précisément, la gang, le cocon familial, parental, est un peu trop serré.
Oui, alors c'est ça le problème, David Le Breton, pour les parents en tous les cas, hein, c'est ce curseur entre la rigidité et l'aspect permissif, ou trop permissif justement.
Oui, c'est la question de la transmission d'ailleurs, comment donner une signification, une valeur à ces enfants, qu'ils puissent s'approprier et qu'ils puissent jouir de leur vie. On est dans une société qui a perdu toutes ses orientations, on n'est plus pris dans une culture de classe ou dans une culture plus large qui nous donnerait des indications. Donc les parents sont livrés à eux-mêmes d'une certaine manière, avec également une perte de beaucoup de repères de la parentalité qui coulait de source autrefois dans une société qui était encore, quand je dis autrefois, c'est il y a une vingtaine d'années.
Oui, c'est ça, c'est il n'y a pas longtemps.
Ouais. C'est-à-dire là, autrefois, il y avait donc une espèce de tradition de la parentalité, il y avait aussi des repères qui se coulaient dans des cultures de classe, dans des cultures religieuses et autres. Aujourd'hui, non, les parents sont devenus, comme nos adolescents, des individus. C'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes et parfois à leur propre désarroi. Ouais. Et les enfants ne disposant plus donc non plus de boussole, en quelque sorte, qui puisse orienter leur chemin.
Et ça, Xavier Bonbon, vraiment, ces prises de risques qui augmentent aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont directement liées à cette société aussi en pleine mutation?
Mais c'est tout à fait ça, parce que, si vous voulez, ce que dit David est très juste. On a, par exemple, un cas de figure, c'est les situations de vie monoparentale. La maman a l'adolescent en charge, à la maison, elle doit avoir toutes les casquettes, elle doit être incarné l'ordre, le devoir, l'amour, etc. Et évidemment, l'ado ne le supporte pas. C'est ce que d'ailleurs disait très bien cet extrait que vous avez passé.
Absolument, c'est cette situation que vous décrivez.
C'est vraiment ça. Et du coup, l'ado bouillonne, ne sait pas comment se comporter par rapport à ce parent, et va lui infliger, c'est le cas de le dire, un certain nombre de choses, en prenant d'ailleurs davantage de risques. Le tout sur une nouveauté, hein, qui joue de façon très importante, c'est les réseaux sociaux, Internet, puisque les ados vont s'exposer sur Internet pour montrer qu'ils sont capables, qu'ils peuvent dépasser leurs limites, qu'ils sont en mesure de relever des défis. Et là, c'est vrai que ça suscite un certain nombre de prises de risques très importantes.
La communication 2.0, c'est une conduite à risque pour vous aussi, David Le Breton?
Sans doute, oui, parce que le jeune est sans arrêt livré à lui-même dans une sorte de narcissisme de groupe, disons. Mais en tous les cas, ça empêche de lever les yeux vers le monde, d'écouter le monde, d'être immergé dans le monde. Et c'est une manière donc de se
le
retirer.
Monde réel, alors, le monde réel, voilà, oui, une immersion dans le monde virtuel.
C'est ça le problème. Et avec donc aussi un retrait de tout ce que ces jeunes pourraient apprendre. Ils sont vraiment dans une sorte de vase clos, avec le sentiment qu'ils nous donnent d'ailleurs que si on faisait tomber leur portable incidemment, il s'effondrerait, il s'écoulerait sur place. Un peu c'est... une espèce de vie par prothèse.
Ouais. C'est toute la différence entre s'ouvrir au monde, qui serait le plan le plus idéal possible pour nos ados, et s'exposer au monde, voilà. Et même se surexposer de manière très dangereuse.
Pourtant, ces adolescents, ils sont bien conscients aussi qu'il y a le monde réel, et ils font la part des choses entre le virtuel et le réel. Ils le font très bien, d'ailleurs.
Ils font la part des choses, mais en même temps, ils ne mesurent pas toujours combien ils se surexposent et qu'ils se donnent finalement en pâture au regard de gens qui ne sont pas forcément doués de bonnes intentions.
David Le Breton, les représentations justement qu'on a du monde de l'adolescence sont souvent, parfois en tout cas, très négatives. Et là, dans ce livre, Penser l'adolescence, vous avez interrogé les adolescents eux-mêmes pour leur demander comment ils se percevaient.
Ah bah forcément, ils ont une bonne image d'eux-mêmes, à l'exception de ceux qui, sur lesquels Xavier et moi on travaille depuis bien longtemps, ceux qui sont en grande souffrance, en grande détresse. Alors là, ceux-là vont vous dire leur sentiment d'insignifiance, le sentiment qu'ils ne sont rien, que leur vie n'a aucun sens, etc. Et ce sont ceux-là qui vont être davantage enclins d'ailleurs aux conduites à risque, qui peuvent mettre en danger leur vie, leur santé, leur intégration sociale, parce qu'elles vont souvent de pair, ces conduites à risque, avec une déscolarisation. Et donc le risque devient à ce moment-là pour eux une manière d'expérimenter le monde, de connaître les limites qui sont les leurs, et peut-être, quand ils sont en grande souffrance, pour moi c'est une manière de forcer le passage, de s'imposer en quelque sorte à un monde dont ils sentent qu'il ne les accueille pas.
Xavier Pomereau, vous ouvrez le livre sur l'expérience de Guillaume, un élève de terminale, qui 2 mois avant le bac décide de prendre une année sabbatique et de partir aux États-Unis.
Alors ce Guillaume, j'en ai un souvenir vraiment très ému, parce que quand ses parents me l'amènent en consultation, voilà, 2 mois avant le bac, il veut partir faire la traversée des États-Unis d'est en ouest. Il n'a jamais vu une carte des États-Unis. Il ne sait pas encore qu'on y parle anglais. En tout cas, il veut pas le savoir. Et il décide vraiment, on sent qu'il est braqué, qu'il va partir, et que si ses parents s'opposent, il va probablement partir en fugue.
Ouais. Alors, il n'y avait aucun signe avant-coureur.
Non, il n'y avait aucun signe avant. Un bon élève, un garçon très gentil.
Donc c'est le drame familial qui émerge.
Les parents sont anéantis, bien entendu. Et là, je les vois 2 ou 3 reprises. Quand je mesure que vraiment il est décidé, j'essaie de convaincre les parents qu'il parte quand même, qu'il fasse cette expérience, qu'il lui donne quelques jours d'hôtel pour le sécuriser, puis qu'il essaie de faire sa traversée. Et en tout et pour tout, ce garçon, une fois arrivé aux États-Unis, va faire 20 miles dans un bus, s'apercevoir qu'il ne parle pas du tout anglais, qu'il a du mal à comprendre, s'arrêter, voir une pizzeria, et sur la devanture, il y a marqué « French fries ». Il croit que ça veut dire « ici, on parle français ». Et il a la chance de tomber sur un couple d'Italiens qui parlent français, qui vont joindre ses parents, ils vont convenir ensemble qu'il va faire un peu de plonge pendant environ 10 jours, et il rentrera, et l'année suivante, il passera son bac, il l'obtiendra avec succès. Pour lui, la traversée des États-Unis, c'était 20 miles.
Ouais, alors, qu'est-ce que ça dit de cette expérience, au fond?
Ça veut dire qu'il
faut laisser partir son ado dans une crise pareille?
Il faut savoir que l'adolescent a besoin d'aller voir là-bas s'il y est, en quelque sorte, et que nos ados, qui voyagent beaucoup par Internet, ne voyagent pas suffisamment en chair et en os. Donc il faut les inciter en effet à partir. Alors je ne dis pas aux parents de demander à leur adolescent d'aller faire la traversée des États-Unis, mais c'est vrai qu'on les garde trop à la maison, au lieu de les laisser partir un petit peu. Et je dis quelque chose qui fait peut-être un peu has-been, mais je vous assure que c'est vrai. Il faut savoir que le camping, pour beaucoup d'adolescents, c'est une expérience de la vraie vie qui, même sur une semaine ou 15 jours, qui est vraiment irremplaçable et qui leur apprend véritablement en live et en toute réalité à se confronter à certaines intempéries de l'existence.
David Le Breton, on parlera d'un départ tout à l'heure qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est celui pour le djihad, parce que c'est un des phénomènes adolescents émergents aujourd'hui. En tout cas, ce que dit cette histoire, c'est que les ados ont besoin de se confronter vraiment à la réalité.
À la concrétude du monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les travailleurs sociaux utilisent énormément la marche, par exemple, avec des mineurs délinquants, les activités physiques et sportives dites à risque, parachutisme, canyoning, ou autre chose de cet ordre-là. Il s'agit donc de retrouver un corps à corps avec le monde.
Et de se mettre à l'épreuve, comme tu le dis très bien.
Il y a aussi cette dimension-là, de la mise à l'épreuve, savoir ce dont on est capable, puisqu'aujourd'hui, on est trop couvé, sans doute, pour les uns. Les autres se sentent complètement fragmentés par leur souffrance. La mise à l'épreuve est une manière de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. On peut dire aussi que c'est une sorte d'ordalie, hein, où ça passe, où ça casse.
Ordalie,
c'est le jugement de Dieu, c'est le jeu avec la mort, c'est la mise à l'épreuve. Si on en sort indemne, ça prouve qu'on avait en soi une capacité, une force. Voilà. Les dieux ont laissé passer le jeune, où il est dans la main de l'ange. Enfin, il aura très souvent le sentiment qu'il est à la hauteur.
Le fameux « ça passe ou ça casse ».
Ouais. Ouais. On va écouter Théo, 13 ans, qui va nous parler de roller, mais vous allez voir qu'à sa façon, il nous dit beaucoup de choses aussi sur la prise de risque et l'autonomie.
C'est un sport dangereux. J'ai fait de nombreuses chutes. 3 côtes cassées, la rate fissurée, plusieurs commotions, mais faut pas avoir peur de tomber. Enfin, c'est un sport, il faut lancer sa vie. Et puis après, c'est un sport comme un autre. Enfin, en s'entraînant, on apprend et puis on apprend à tomber. Pour moi, tomber, ça me fait pas peur. Enfin, j'aime un peu ça des fois, enfin, que faire du tennis ou... Je trouve que c'est pas à peu près la même sensation. C'est une sensation un peu à part que les autres sports.
Une sensation un peu plus extrême ?
Ouais. Voilà. Et puis, il y a aussi la montée d'adrénaline qui vient quand il y a le cœur qui tape comme ça. Et après, dès qu'on on réussit le tricks ou qu'on tombe, bah, ça s'arrête. Et puis après, dès qu'on est en haut de la rampe, ça revient. Ça, c'est cool.
Voilà, Théo, 13 ans. Intéressant ce qu'il dit. Hein.
Ah oui,
parce que je trouve que ça résume assez bien l'ensemble des conduites à risque, au fond. Hein,
absolument.
Dans ces différents aspects.
Se faire des frissons,
ouais.
Hein, la montée d'adrénaline, comme il le dit très bien, et puis, maintenant, très souvent, s'exposer sur les réseaux sociaux en train de faire ça pour être populaire, qui est le mot-clé aujourd'hui chez nombre d'ados.
Et sans avoir peur de tomber aussi.
Oui, mais même, on peut revenir sur le fait de tomber, mais j'ajouterais que quand même, c'est une autre version du risque au regard des conduites à risque. Là, chez ce jeune, on n'est pas dans une conduite à risque, on est dans une pratique physique et sportive, avec donc la possibilité, effectivement, de la chute, de l'accident, etc. Mais ce n'est pas du tout un jeu avec le risque induit par la souffrance. Là, on est plutôt dans l'expérimentation de soi, la recherche de la virtuosité. Mmh. Et ce jeu.
Et le frisson.
Tu as raison, il y a le frisson, mais il y a aussi autre chose. Et quand il nous dit « j'aime bien tomber finalement », il a dit « moi j'y vois une recherche de limite tangible », c'est-à-dire la rencontre par corps avec le monde, qu'on retrouve évidemment énormément dans les conduites à risque, à travers les attaques au corps ou d'innombrables autres pratiques de cet ordre-là. Mais chez un jeune qui semble avoir un goût de vivre manifeste, là, il peut y avoir aussi cette nécessité de savoir jusqu'où aller trop loin et de se heurter au monde, même si c'est la blessure qui crée finalement le sentiment d'être soi, ouais. D'être là.
Ce qui n'est pas toujours le cas dans les conduites vraiment à risque, David Le Breton.
Les conduites à risque, là, il y a
Il y a vraiment prise de danger.
Oui, on est vraiment du côté du danger, mais le danger n'est pas cherché pour lui-même chez les...
On peut ajouter que finalement, le rôle des adultes, c'est de proposer un cadre d'évolution à l'intérieur duquel les adolescents vont pouvoir se mettre un peu à l'épreuve. Et je crois qu'on oublie trop souvent qu'on ne peut pas être adolescent sans se mettre à l'épreuve.
Allez, on se retrouve dans un instant. Déjà des questions et des témoignages pour vous, je vous les transmets dans un instant. Après Carmen Maria Vega et La Menteuse, vous êtes sur France Inter. Bon après-midi, c'est La Tête au Carré.
Ben moi je mens passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent. Je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs elle a pas une si grosse. Enfin j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus les pas si beau. À mes amis rien que je mens. À mes amants j'ai tout appris. Finalement me disait Johnny que je t'aime. Toi t'as du talent hein. À moi, à vous. Merci. Bah moi je m'en fiche. J'ai plus quand je me suis dit vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Depp. Et bah il s'en remet travail, il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis rien que je mens. À mes amants j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois je voudrais fuir, partir de là.
sale sur une île. Bah moi je m'en mets pas à toi, parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi je mens, même si ça vous plaît pas bien, vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas finir à l'asile.
Ah, je vais y aller là-bas, ça fait long. Laissez-moi tranquille, me touchez pas.
Sans mon vivant souffert.
Moi je m'en plus depuis ce matin, depuis que j'ai fait du chemin. Je me suis dit que c'était vraiment nul, et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement.
Le psychiatre Xavier Paumont et le sociologue David de Breton sont nos invités cet après-midi pour ce dossier consacré aux conduites à risque, le goût du risque à l'adolescence. D'ailleurs, c'est ce livre, Xavier Paumont, que vous publiez chez Albin Michel, et Penser l'adolescence au PUF pour vous, David Le Breton. Il y a cette question de Thierry qui demande si les jeunes hommes prennent plus de risques que les jeunes filles. Est-ce que ces conduites sont très sexuées, Xavier Paumont?
Alors, pour une part, oui, quand il s'agit, par exemple, de prise de risque motorisée, c'est encore beaucoup plus les garçons que les filles. Par contre, on voit les filles rejoindre les garçons du côté du binge drinking, c'est cette façon de boire énormément d'alcool, de se mettre donc en risque par rapport, évidemment, à toutes ces expositions que peuvent que les prises de substances peuvent poser. Je suis frappé de voir le nombre d'adolescentes, donc de filles de 14-15 ans, qu'on va retrouver bras dessus dans la rue avec leur meilleur ami, une bouteille de vodka à la main, prêtes à toutes les rencontres. Elles le disent d'ailleurs, on est prêtes. C'est des propos, si vous voulez, qui font quand même un peu froid dans le dos.
David Le Breton, les filles expriment leur détresse différemment alors ?
Elles intériorisent davantage leur mal de vivre, donc elles sont plutôt du côté des scarifications, des attaques au corps, des plaintes somatiques, des tentatives de suicide, alors que les garçons se tuent davantage. Les garçons sont davantage du côté de ce que j'aime bien appeler les rites de virilité, c'est-à-dire montrer qu'on en a, entre guillemets, être le meilleur. Et donc les garçons sont souvent blessés ou parfois meurent dans des conduites de défi. C'est la vitesse sur les routes, c'est l'alcoolisation extrême, c'est la toxicomanie, c'est la délinquance, la violence, etc. C'est-à-dire, on peut dire que dans les conduites à risque, il y a très souvent une sorte d'affirmation des stéréotypes de genre. J'ai oublié de dire que du côté, enfin, tu le sais bien Xavier, du côté des conduites à risque des filles, il y a aussi tous les troubles alimentaires touchent moins les garçons, même si on commence à les toucher.
Voilà, mais moi je suis frappé en ce moment de voir la progression des conduites à risque qui étaient typiquement masculine autrefois, chez de très jeunes filles, c'est-à-dire des moins de 16 ans. Comme s'il y avait une sorte d'appel aussi à se montrer l'égal des garçons en usant et abusant des mêmes substances, en particulier, donc on vient de parler de l'alcool, mais aussi du cannabis.
Alors il y a des chiffres étonnants. En 5 ans, le nombre de transferts aux urgences pour alcoolisation aiguë chez les jeunes a doublé dans les hôpitaux français, avec des taux d'alcoolémie record.
Quand j'étais interne en psychiatrie et de garde aux urgences, je n'ai jamais reçu un adolescent qui était en coma éthylique. Aujourd'hui, tous les lundis matins, dans mon service, nous recevons au moins 2 jeunes filles de moins de 15 ans qui ont été admises pendant le week-end aux urgences du CHU de Bordeaux en état de coma éthylique, c'est-à-dire avec 3 à 4 grammes d'alcool dans le sang. Pour donner une idée à nos auditeurs, ça veut dire avec sa meilleure copine, boire une bouteille et demie de vodka ensemble. Voilà, le genre de parcours qui peut exister.
David Le Breton.
Oui, ce qui est typique, là, c'est l'émergence chez les jeunes générations de ces pratiques de disparition de soi qui m'ont énormément intéressé ces dernières années.
Vous avez publié un livre sur la question, magnifique d'ailleurs l'année dernière.
C'est la recherche du coma, c'est ne plus être là, ne plus que ça ne me prenne plus la tête.
Se déchirer.
Je me déchire, voilà, mais il n'y a plus personne. Je suis là, mais il n'y a plus personne.
Beaucoup de messages d'auditeurs, Ludovic demande si ces phénomènes de prise de risque existent dans d'autres sociétés de la même manière. Le risque est-il culturel, éducationnel ou lié à l'éducation religieuse? Ici à Taïwan, nous dit Ludovic, une île, j'ai l'impression que les ados sont plutôt sages, peu de prise de risque, peu de rébellion.
Eh bien oui, et on pourrait croire ça. Et figurez-vous qu'avec la mondialisation en quelque sorte des moyens des nouvelles technologies, on voit de moins en moins de différences. J'étais chez vos collègues de RFI hier et on avait des auditeurs africains qui nous appelaient en direct et qui racontaient exactement les mêmes choses que nos ados à nous.
Pourtant, moins de rites de passage évidemment dans nos sociétés occidentales. David Le Breton, d'ailleurs c'est l'objet d'une question. Beaucoup de pratiques, de tribus pratiquent justement des rites comportant un certain risque pour leur intégrité physique afin de passer à l'âge adulte. Ces rites sont-ils nécessaires au jeune homme pour s'affirmer, demande Thierry.
Pour moi, non, parce que dans nos sociétés occidentales, en fait, les rites de passage étaient quasiment inexistants, à moins de dire que le service militaire ou la communion ou la bar mitzvah avaient une valeur de rite de passage. Le baccalauréat, mais quand même, ça se discute, parce que dans les sociétés traditionnelles, les rites de passage ont une fonction radicale et définitive de faire passer le jeune de l'enfance à l'âge d'homme ou à l'âge de femme. C'est encadré par les aînés, par les adultes. C'est aussi, n'oublions jamais, un rite de transmission, un rite de passage implique la transmission des aînés vers les plus jeunes. Moi, je parlerais plus volontiers dans nos sociétés contemporaines de rites individuels de passage, de rites personnels de passage. Parce que Xavier a parfaitement raison de dire qu'il y a aujourd'hui une mondialisation des conduites à risque. D'ailleurs, donc, cet adolescent qui est seul, qui se sent seul au monde, qui est dans une immense souffrance personnelle et qui s'entaille, qui croit qu'il est tout seul. En fait, au même moment, il y a des dizaines de milliers d'autres du même âge qui sont dans le monde entier, qui sont en train d'exécuter la même blessure sur soi. Donc on peut parler de rite individuel, la notion de rite renvoie à cette dimension infiniment collective, et la notion d'individuel renvoie au fait que c'est l'individu, le jeune lui-même, qui s'autorise finalement de lui-même. Personne ne lui dit « entaille-toi », personne ne lui dit « mets-toi en danger ». Il le fait par une espèce de nécessité intérieure, mais qui rejoint justement des données anthropologiques, parce que dans le monde entier, des millions d'autres gamins vont être dans la même logique.
Vous parlez de la scarification. Est-ce que scarification et tatouage disent la même chose?
Non, pas du tout. Sauf quand ce sont des scarifications esthétiques qui sont rares et qui sont faites dans des boutiques. Non, le tatouage est une manière finalement d'esthétiser sa peau. Pour beaucoup de jeunes qui sont bien dans leur peau, c'est une manière de se sentir encore mieux. Les scarifications renvoient toujours à une souffrance, au sentiment d'être enfermé dans une identité qui colle à la peau, justement d'une identité absolument intolérable. Donc les scarifications, c'est une manière d'ouvrir la peau, de respirer, de reprendre son souffle. Et puis peut-être aussi, pour des adolescentes ou des adolescents qui ont été abusés sexuellement, un rite intime de purification. Une manière de faire couler le sang de la souillure, du dégoût de soi, etc. Donc ce sont des remèdes paradoxaux. Le tatouage, on est plutôt dans le consumérisme d'aujourd'hui, dans le bonheur d'être soi.
Oui, avec au niveau des rites, d'ailleurs, ce qu'on peut dire, de pseudo-rites de consommation, qui sont des rites improvisés souvent, mais par exemple, dans les années collège, si vous voulez, l'accès au tabac, à l'alcool, au cannabis et éventuellement à d'autres drogues devient pour certains ados une sorte de parcours pseudo-initiatique. Comme le dit David, c'est pas du tout les adultes qui le contrôlent, ce sont les ados qui le sécrètent eux-mêmes, qui essaient de trouver finalement leur propre marque pour effectuer la traversée de l'adolescence.
Un autre problème dont on parle souvent d'ailleurs dans cette émission, c'est celui du sommeil. Alors vous, en tant que médecin, j'imagine, Xavier Pommereau, que vous êtes très attentif aussi à la baisse du sommeil et de ses impacts sur la santé des jeunes.
Un gros souci, et d'abord un conseil à nos auditeurs, la nuit, les portables dorment aussi. Et je vais vous donner une petite recette qui est assez efficace. Plutôt que de dire à son ado « donne-moi ton portable parce que je veux pas que tu dormes pas la nuit si on t'appelle ou si tu regardes des séries », il vaut mieux dire la nuit, on va mettre nos portables à recharger, tous les portables de la famille dans la cuisine, par exemple.
Montrons l'exemple alors.
Voilà. Et tout le monde va accepter de dormir sans portable. Parce que je suis frappé par une chose, c'est que l'école commence très tôt le matin, il y a souvent des transports pour y aller. Par contre, le temps de sommeil recule, puisque bon nombre d'ados sont encore sur Internet à minuit, une heure, et parfois même pour certains 2h du matin.
Un témoignage de Cécile sur le Facebook de La Tête au Carré. Ma fille de 12 ans m'explique qu'elle ne ressent rien, qu'elle n'a aucune émotion. Serait-il possible que les ados se coupent de leur sensibilité pour se protéger de la dureté du monde ?
David, oui, Le Breton. C'est vraiment la question du corps qui revient, l'absence de limites. Je me souviens d'ailleurs de l'entrée du film 13, un film magnifique, un film américain dont le scénario avait été écrit par une jeune de 13 ans, et le film s'ouvrait par deux gamines qui se donnaient des violents coups de poing dans la figure comme une manière de se réveiller, de se dire j'existe, je suis là, je suis vivant, je suis réel, parce qu'effectivement cette espèce de déréalisation du monde que connaissent aujourd'hui les ados à cause de tous les écrans, les amène à oublier un peu la dimension physique, et sensorielle.
Vous y croyez vraiment à cette absence d'émotion que vous avez?
Non, bien sûr que non, mais c'est une tentative, c'est-à-dire que bon nombre d'ados qui ont peur de souffrir du fait des sentiments et des émotions veulent se couper des émotions, et notamment, par exemple, essayer de se procurer des sensations fortes pour réduire la part d'émotion. Mais cette jeune fille, bien sûr qu'elle a des émotions, et heureusement.
Marielle nous dit ceci, ma fille est en troisième, elle ne se rend plus en cours, elle fume, ne dort qu'à partir de 3h ou 4h du matin, elle ne se lève plus, est-ce qu'elle se désocialise et que dois-je faire, demande Marielle.
Bien sûr, là il faut absolument intervenir, il faut absolument que les parents puissent demander de l'aide, et plutôt que de dire à la jeune fille, tu ne vas pas bien, tu vas aller chez le psy, il vaudrait mieux dire, nous sommes très inquiets à ton sujet, veux-tu bien nous accompagner pour qu'on aille voir quelqu'un ?
David Le Breton.
Oui, je pense qu'effectivement, ce sont des jeunes qui ont besoin absolument d'amitié, de soutien, de reconnaissance. J'aime bien parler à cet égard de la prévention de la boulangère, parce qu'au-delà des parents, évidemment, on peut dire que tous les adultes sont en position de prévention. Donc cet adolescent, par exemple, qui va aller chercher le pain pour le repas familial, si tant est qu'il existe encore, si la boulangère voit qu'il a l'air complètement paumé, qu'il a l'air malheureux, elle peut lui donner un gâteau, ou elle peut lui sourire, ou lui dire simplement: aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vas pas très bien. Et je crois que cette simple reconnaissance de la souffrance qu'on éprouve peut avoir un impact de remise au monde, le sentiment de pas être seul en tous les cas, que quelqu'un a compris. Ça n'engage à rien, mais c'est prodigieusement efficace.
Allez, on écoute William Scheller et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette discussion. Comme je m'ennuie de toi, c'est le titre de cette chanson.
Ce n'est pas que le temps soit plus mauvais qu'hier, mais je préfère rester chez moi à me parler de toi. Oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi. Oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi. Ce n'est pas que mes amis m'abandonnent, mais je les fatigue au téléphone à leur parler de toi. Oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi. Oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi. Tu m'as dit sors un peu et va au cinéma pendant que je ne suis pas là, mais je n'y verrai que toi. Oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi. Oh, 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 oh. Comme je m'ennuie de toi. Thank you.
Voilà, on va laisser aller le piano de William Scheller jusqu'au bout. Pensez l'adolescence, David Le Breton, donc c'est aux Presses Universitaires de France. Et puis Le goût du risque à l'adolescence chez Albin Michel, ce livre que vous signez Xavier Pomereau, avec beaucoup de messages pour vous, des témoignages. Marie-Christine, tiens, nous dit ceci. J'ai un mari qui, dans son adolescence, a toujours pris beaucoup de risques et aujourd'hui, à plus de 60 ans, il continue de faire d'énormes bêtises. Que pensez-vous de ces adultes qui ne sortent pas de cette attitude dont vous parlez pour l'adolescence?
Ah oui, ben là, il reste adolescent, si je puis dire. Mais enfin, il y a un petit souci quand même, parce que normalement, justement, on doit tirer des expériences, des leçons, et en profiter pour se construire dans sa tête. Donc, continuer à se mettre en danger, je crois que c'est une manière de dire qu'on ne parvient pas à ponctuer son parcours.
Pierre nous envoie ce message. Mes parents croyaient que tous les adolescents faisaient leur crise, si bien qu'ils étaient déçus que je sois obéissant et affectueux. Ils rêvaient de me voir sortir tard ou d'avoir des crises de colère injustifiées.
Oui, bon
il y en a quand même.
Il y en a.
Tout se passe pas si mal.
Il y en a. Maintenant, il faut quand même dire aussi que un adolescent qui ne broncherait pas, qui ne poserait aucun problème à ses parents. Moi, je m'interrogerais sur ce qui va devenir ensuite vers 30 ans.
Vous pensez que ça finit toujours par sortir d'une façon ou d'une autre?
C'est comme les maladies éruptives de l'enfance. Il vaut mieux les faire petits que plus grands.
Walid nous envoie ce message. Les adolescents saoudiens pratiquent le rodéo automobile à des vitesses supérieures à 200 km et c'est là-bas, dit-il, une vraie culture de l'ombre.
Oui, pour ma part, je l'ignorais, mais on peut y voir une forme de surenchère, finalement, sur la mort qui rôde partout autour d'eux. C'est une manière de reprendre l'initiative, d'ailleurs, hein, puisque là, la mort, elle va venir de l'extérieur, des bombardements, des djihadistes ou d'autres. Eh bien, finalement, je prends l'initiative, je choisis mon défi avec la mort plutôt que la mort me soit imposée.
Justement, le djihad, c'est vraiment aujourd'hui émergeant et une nouvelle forme justement de prise de risque.
Voilà, c'est l'une des nouvelles conduites à risque de nos jeunes. Alors pour aller très très vite, pour donner plutôt une matrice d'analyse, je pense que c'est une manière de donner un sens à leur vie chez des milliers de jeunes qui se sentent un peu paumés, même quand ils ont réussi socialement. D'ailleurs, réussir socialement ne veut pas dire qu'on trouve que sa vie vaut vraiment la peine qu'on la vive. Mmh. Il y a aussi une quête de spiritualité, mais une spiritualité dans une sorte de prêt-à-penser, dans une société hyper matérialiste comme la nôtre. Il y a aussi une forme de disparition de soi, puisque là on s'en remet à Dieu sous la forme, enfin sous l'égide des porte-paroles autoproclamées de Dieu. Du côté des garçons, j'y vois aussi un rite de virilité qu'on rencontre d'ailleurs aussi dans les tueries scolaires où des adolescents tuent d'autres adolescents. Donc un rite de virilité, c'est-à-dire une prise de pouvoir absolument considérable sur l'autre. Je peux torturer l'autre, je peux violer l'autre, je peux l'égorger, je peux tuer qui je veux. Donc c'est difficile de ne pas y voir une forme de rite de virilité également. Voilà, une manière d'intensifier son existence, de vivre à fond, même en sachant qu'on va mourir bientôt.
C'est une réalité que vous croisez aussi, vous, en tant que médecin, Xavier Pomereau?
Moi, j'ai croisé des jeunes filles, j'ai vu des jeunes filles qui étaient des jeunes filles assez immatures, en douleur identitaire, douloureuse. Elles auraient pu aussi faire des tentatives de suicide. Elles n'avaient qu'une idée, c'était se couper, se séparer de cette vie-là pour en vivre une autre complètement idéale. Réalisée, mais d'une manière totalement immature. Elle voulait aller épouser un combattant en Syrie, faire des enfants avec lui, et puis une espèce de comme ça de rêve à la fois très romantique et en même temps très douloureux. Et ce sont des jeunes filles qu'on a pu évidemment convaincre de ne pas partir faire le djihad avec une seule bonne recette, si je puis m'exprimer ainsi, en les aidant à renouer avec l'affectivité et les liens avec leur famille. Car dans le mouvement djihadiste, les tenants de ces mouvements essaient de couper les liens. Et donc, ces jeunes filles, on a pu les récupérer en montrant des photos de famille. Elles se sont mises à pleurer et elles ont à nouveau, enfin, éprouver le sentiment de filiation qui les a empêchés de partir.
Et c'est une chance que vous ayez pu les croiser, et qu'elles vous aient croisé aussi sur leur route.
Oui, hein. Mais c'est une chance aussi que nous ayons maintenant des autorités qui nous signalent des adolescents en danger et qui nous les orientent.
Le site stopdjihadisme.gouv.fr d'ailleurs recense environ à 500 le nombre de Français partis pour le djihad, la plupart jeunes, quelques-uns même mineurs. Absolument. Il y a d'ailleurs un numéro qu'on peut rappeler, le 0800 00 56 96, c'est un numéro vert.
Juste un mot sur les garçons qui sont les jeunes maghrébins notamment, des jeunes garçons qui veulent venger leurs ancêtres pensant que leurs parents et leurs grands-parents maghrébins se sont couchés, entre guillemets, devant l'ordre colonial et ils veulent venger leurs ancêtres. Ça, c'est aussi un phénomène très inquiétant.
On va écouter le témoignage d'une mère, extrait d'un documentaire de La Cité à la Syrie. C'était dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 en janvier dernier.
Pour Michel, étant donné la naïveté de son fils et de ses copains, ils n'ont pas dû être bien difficiles à endoctriner. En leur montrant des vidéos, les recruteurs les auraient convaincus qu'ils avaient un rôle à jouer dans le conflit syrien.
Au départ, c'est certain que quelqu'un était beaucoup, beaucoup plus érudit pour leur apprendre. C'est pas ces gamins qui ont appris, qui savent que des femmes se font tuer, ils connaissent rien, ils savent même pas qui est Bachar al-Assad, ils savent même pas qui, ils connaissent aucune politique, aucun... Fred, il faut pas y demander même qui est le président de la République. Je suis certaine qu'ils sauraient pas pour répondre à l'heure actuelle.
Ils s'intéressaient pas particulièrement à la situation
politique. Pas du tout. Rien, mais rien, de rien. Après, maintenant, il y a des gens bien intentionnés qui les ont aidés, quoi, à les mettre un peu dans le bain.
Voilà, Xavier Pomereau. Réaction à ces propos d'une mère d'enfant concerné par le djihad.
C'est tout à fait vrai, et c'est ça qui est très surprenant, et qui m'amène d'ailleurs dans mon livre à conseiller un nouveau cours à l'école, qui serait un cours de critique numérique, pour apprendre aux adolescents à rejoindre les éléments du puzzle médiatique dont ils disposent. Je suis frappé, par exemple, chez certains de mes patients, qui ont 15 ou 16 ans, de voir qu'ils connaissent, alors ils savent qu'il y a des choses qui se passent en Syrie, ils savent qu'il y a des attentats à Bruxelles ou à Paris, mais ils ne font pas du tout de lien entre ces différents drames, et je crois qu'il est absolument urgent de pouvoir leur apprendre à critiquer les images et surtout donc à recomposer le paysage global. Par exemple, sachez, je l'avais fait avec une de mes collègues, que auprès d'une classe de troisième, en leur demandant « Où situez-vous le Moyen-Orient ?», aucun élève d'une classe de troisième d'une grande ville française, de centre-ville, n'était capable de répondre à cette question. Alors, un petit conseil pour les mamies qui sont souvent les acheteuses de smartphones dernière génération, qui géolocalisent l'adolescent à 1,5 mètre près, achetez-leur des maps monde qui fassent table de lampe de chevet.
David Le Breton.
Oui, j'aimerais
toujours sur cette question de ces jeunes qui parlent du djihad.
J'aimerais ajouter que le djihadisme est une sorte de caricature des stéréotypes de genre, puisque les filles partent pour épouser un djihadiste, pour faire des enfants, pour soigner aussi les malheureux enfants blessés qu'elles imaginent là-bas. Les garçons partent pour tuer. Pour égorger. Donc on est vraiment dans une incroyable caricature des stéréotypes de genre. Et l'autre point, c'est la dimension de la communauté que soulignait tout à l'heure Xavier. Là, vous appartenez à une communauté, la communauté des djihadistes. Vous avez Dieu qui vous soutient, qui vous relie, etc. Puis vous avez tous ceux qui sont dans la même logique, à la recherche du martyr, etc. Vous n'êtes plus seul. Alors effectivement, l'une des formes de prévention, c'est de rappeler aux jeunes qu'autour de lui, dans sa famille, il peut faire communauté également.
C'est ce qu'il rejette aussi d'ailleurs. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est qu'à la fois il rejette cet aspect communautaire lié à ses parents, mais il va le rechercher ailleurs.
C'est l'ambivalence de l'adolescence d'ailleurs.
Raphaël nous dit, les jeux vidéo, les séries, les images en libre accès de plus en plus violentes, sont-ils des facteurs sociétaux qui pourraient pousser les adolescents vers le djihad ?
Pour ma part, je ne crois pas, parce qu'il y a quand même une réflexivité. Je crois que ceux qui vont aller vers les djihad et qui sont des grands consommateurs de jeux vidéo étaient justement enclins. Au départ, ce n'est absolument pas le jeu vidéo ou les séries qui vont les précipiter vers le djihad ou les tueries.
Est-ce que l'étude montre vraiment un lien direct
Voilà. Ah non, aucune étude. Voilà.
Il faut vraiment savoir que, si vous voulez, la violence dans les jeux vidéo ne va pas générer, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, de la violence en vrai. Par contre, là où on doit être attentif, c'est sur la durée d'investissement dans le jeu. C'est-à-dire qu'un adolescent qui va passer 8 heures ou 10 heures sur un jeu vidéo par jour est un adolescent qui cherche à se couper de la réalité pour s'immerger complètement dans ce monde vidéo. Et ça, c'est dangereux.
Allez, dernière question très rapidement. Denis nous dit ceci. Est-ce qu'on peut mettre en lien la question de l'attachement? C'était l'émission d'hier sur la théorie de l'attachement avec le goût du risque qui semble se développer chez les adolescents.
On peut mettre un lien, oui, en effet. Quand l'adolescent cherche absolument à se déchirer, lorsqu'il cherche vraiment à se couper de tout et de ses émotions, comme le disait tout à l'heure l'auditrice, ça veut dire quand même qu'il y a des soucis et qu'il est en quête de quelque chose.
Allez, quelques clés pour aider ceux qui nous écoutent et qui le souhaiteraient. Le goût du risque à l'adolescence, donc le comprendre et l'accompagner. C'est ce livre que vous signez Xavier Pomereau aux éditions Albin Michel. Et puis David Le Breton, autre ouvrage, Penser l'adolescence aux presses universitaires de France, tout comme Conduite à risque, que vous aviez publié chez le même éditeur. Merci infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui, en ce jour férié.